La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Avec un constat qui s'impose dans la presse du monde entier, ce sont bien souvent des femmes qui sont en première ligne face à la pandémie de Covid-19.
C'est vrai, des femmes mises en avant avec ce que cela signifie de responsabilité, de prise de risque, mais aussi d'hommage reçu quand le monde se rend enfin compte que, oui, ce sont principalement des femmes, comme l'écrit Claire Provost sur le site d'Al Jazeera, qui tiennent le front. Qu'elles soient soignantes, préparatrices en pharmacie, caissières, agents d'entretien ou bien chef d'État, et oui, c'est le magazine américain Forbes qui le notait hier, si l'on regarde qui dirige les pays ayant pour le moment apporté la réponse la plus efficace au coronavirus, eh bien, on constate qu'ils sont tous dirigés, ces pays, par des femmes. La Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardern, Taïwan et sa présidente Tsai Ing-wen, l'Allemagne d'Angela Merkel, l'Islande de Catherine Jacobsdottir ou la Finlande de Sanna Marin. La liste est encore plus longue, je m'arrête là. Tous ces pays, en tout cas, affichent des données sanitaires qui rendent jaloux leurs voisins. Très peu de morts. Et quand on cherche un point commun avec Forbes pour expliquer ce succès, on trouve celui-ci, le fait donc d'être gouverné par des femmes. Alors il y aurait une tendance sexiste, essentialiste à attribuer ces succès à des qualités qui seraient par nature féminines, la compassion, l'instinct de protection, la coopération, la prévoyance, mais The Guardian, traduit par le Courrier International, nous propose une autre façon de voir les choses. Pour accéder au poste de direction, les femmes doivent en général être meilleures, on est plus exigeant avec elles qu'avec leurs homologues masculins, pas de droit à l'erreur. Ces pays ont donc élu tout simplement les personnes les mieux qualifiées pour les diriger et ils en constatent aujourd'hui le résultat.
Cela étant dit, la période n'est pas pour autant très propice aux droits des femmes, Camille.
Oui, c'est le paradoxe que soulève, on y revient, Claire Provost dans sa tribune sur aljazeera.com. Elle nous alerte sur le fait que plusieurs gouvernements tentent en ce moment d'utiliser le coronavirus pour restreindre ses droits, à commencer par l'un des plus disputés, le droit à l'avortement. Ça a commencé en Argentine le mois dernier avec le report sine die du vote qui devait être historique sur l'entérinement donc du droit à l'IVG dans ce pays. En Pologne, renchérit The Guardian, il y a de quoi s'inquiéter aussi la session du Parlement qui s'ouvre aujourd'hui voit un vote sur un texte déposé par des organisations anti-IVG qui veut restreindre drastiquement les possibilités d'avortement avec l'argument qu'il faudrait désengorger les hôpitaux en autorisant que les actes médicaux essentiels, l'IVG n'étant donc selon eux pas considéré comme un acte essentiel, ce qui mérite clairement débat, sauf que les rassemblements et les manifestations sont interdits en ce moment en Pologne. Bon, a priori, selon la Wyborcza Gazeta à Varsovie, même le gouvernement très conservateur polonais dominé par le PiS ne soutient pas ce texte et devrait appeler la majorité des députés à voter contre tout à l'heure. Mais la Pologne n'est pas la seule où les ligues anti-IVG tentent de profiter de la crise actuelle et ça nous amène, comme souvent sur ce dossier, aux États-Unis. Pas plus tard qu'hier, il a fallu qu'une cour d'appel s'y reprenne à deux fois pour finalement bloquer l'interdiction prise par l'État du Texas de pratiquer des interruptions médicales de grossesse. L'argument, là encore, explique le Los Angeles Times, c'était qu'il faudrait réserver le matériel et les personnels hospitaliers à la lutte contre la Covid-19. Ça pourrait s'entendre si les médecins spécialistes, les lieux d'intervention et les appareils utilisés étaient les mêmes pour une IVG que pour la réanimation d'un patient Covid en état d'asphyxie sévère, ce qui, je ne suis pas spécialiste, mais laisse tout de même à désirer comme démonstration. En tout cas, après avoir dans un premier temps validé l'interdiction de l'avortement médical au Texas, les juges ont finalement autorisé l'IVG médicamenteuse, plus compatible avec l'urgence sanitaire et le confinement. C'est une maigre victoire, mais c'est une victoire tout de même, à laquelle s'ajoute celle dans l'État, cette fois d'Oklahoma, où de la même manière, l'interdiction de la plupart des avortements prises au départ jusqu'au 30 avril a été cassée ces derniers jours par une cour fédérale.
Et puis on reste aux États-Unis, Camille, où des millions d'Américains vont relever leur courrier avec fébrilité ce mercredi.
C'est vrai parce que c'est jour de paye aujourd'hui, comme l'écrit USA Today avec ironie, ou plutôt c'est le jour où devraient arriver dans les foyers américains les premiers chèques d'aide sociale d'urgence qui constituent l'essentiel de la réponse de l'administration Trump à la crise sociale qui accompagne la crise sanitaire. Des millions d'Américains ont perdu leur travail et leur principale source de revenus du jour au lendemain. Il s'agit de les aider, eux et leurs familles, mais aussi, c'est vrai, de sponsoriser la demande d'éviter l'effondrement de la consommation aux États-Unis et donc de toute l'économie américaine. 80 millions de personnes vont donc bénéficier d'un chèque de $1,200, soit environ 1,100 euros. Le souci, c'est de savoir quand ces chèques vont vraiment arriver. Et là, The Washington Post nous explique qu'il y a eu des retards, que certains bénéficiaires vont devoir attendre plusieurs jours avant de pouvoir aller faire les courses, parce que le Trésor américain qui envoie ces chèques a suivi une procédure inédite. À la demande express de la Maison Blanche, il a fallu modifier le format standard du chèque d'aide sociale pour qu'y apparaisse le nom de Donald Trump, le président qui apparemment tenait à ce que cette générosité de l'État fédéral soit aussi et surtout présentée comme sa générosité personnelle auprès de millions de foyers démunis. Une telle personnification, c'est du jamais vu. The Washington Post n'est pas dupe de la manœuvre électoraliste pour Trump à 8 mois de la présidentielle, sauf que, on le répète, eh bien, cette coquetterie, elle a compliqué le travail du Trésor américain et elle a retardé le versement de l'aide sociale à ceux qui en ont besoin. Tout ça, finalement, analyse de New York Times, est assez cohérent avec l'attitude de Donald Trump, obsédé par son image et par la campagne pour sa réélection, et qui tente de faire oublier les critiques de plus en plus vives sur la gestion, sur sa gestion de la crise coronavirus, en multipliant les coups de com' et les tentatives de diversion, la dernière en date étant bien sûr l'arrêt la nuit dernière de la participation financière américaine à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, accusée par Trump d'avoir tardé à lancer l'alerte mondiale, accusée aussi de s'être laissé embobiner par les mensonges chinois. En somme, un bouc émissaire bien pratique que cette OMS en s'étant troublée pour le président américain.